émission maintenant. Elle ne deviendrait pas théorique.
EDL, émission de littérature.
Tous les lundis soirs, 19h, 20h.
Ça devient lassant le roman. Radio Campus Orléans.
Hey Carl, tu sais que c'est la rentrée littéraire ?
Yeah. Encore ?
Ouais, il y a au moins 580 bouquins qui sortent, enfin des romans, hein. Bon, c'est toujours du roman, d'accord, ok. Bon, parmi eux, vous allez beaucoup entendre parler de Virginie Despentes, vous allez encore plus entendre parler de Michel Houellebecq qui va faire une méga polémique, mais pas lu le bouquin encore parce que diffusé qu'à très très petit nombre d'exemplaires en service de presse. Et puis pas mal d'autres livres qui se laissent lire, mais parmi ces livres-là, parmi ces romans-là, un seul vaut le coup, un seul a une ambition forte, capitale. D'ailleurs, on le retrouve dans son titre ce mot-là. Ça s'appelle La fleur du capital de Jean-Noël Orango. C'est un premier roman, mais enfin en même temps, le bonhomme, il a 40 ans. C'est le premier tome de ce qui pourrait être quelque chose en 5 volumes. C'est signé chez Grasset, ça vaut son pesant de poids puisque ça peut... Il y a 763 pages et vous en saurez plus le mois prochain puisque Jean-Noël Orango, je vais l'interviewer à Paris lundi prochain. Voilà, et je vous ramène ça, ça durera une bonne heure d'entretien parce qu'il faut bien une heure pour parler de La fleur du capital, le livre de cette rentrée littéraire de janvier. Pour cette rentrée littéraire de janvier, Carl, nous à l'émission de littérature, on a choisi de parler à un musicologue. Et ce musicologue, on l'a déjà interviewé, on est très heureux de l'avoir à nouveau avec nous ce soir et on va passer... une heure en sa compagnie, c'est Guillaume Kosmicki. Carl, ouvre ton micro.
Il est déjà ouvert, figure-toi. Tu vois,
super.
J'étais super prêt. Bien, on l'avait reçu pour son livre sur les free parties. Et cette fois-ci, on va en fait l'interviewer pour Musique savante de Ligeti à la fin de la guerre froide, donc une période de 63 à 1989. Ce livre suit en fait un premier tome de cette trilogie annoncée, hein. Musique savante de Debussy au mur de Berlin, 1882-1962, qui était déjà fort passionnant. Moi, ça m'avait pas mal inspiré pour faire nos sélections de morceaux aussi dans le cadre de l'émission de littérature. On y apprenait plein de choses. Et puis, voilà, ça va être l'occasion de l'interviewer sur ces deux tomes, principalement sur le dernier. Et puis, on parlera certainement un peu du troisième à la fin. Donc, que dire de plus, hein, Guillaume Kosmicki, musicologue, effectivement, conférencier. Le grand écart au niveau du spectre musical, autant compétent sur les musiques électroniques les plus hardcore que sur la musique baroque. Voilà, ouverture certainement d'esprit qui va à la hauteur de ce qu'il écoute. Et puis, il a écrit plusieurs petits textes aussi sur des choses très pointues en musique contemporaine, en musique classique. La plupart de sa bibliographie est dispo chez Le Mot et Le Reste. Et puis, on va passer un petit morceau de musique avant de commencer cette interview.
Okay, il y aura pas mal d'extraits pour illustrer son propos.
A priori, s'il parle beaucoup, il y en aura moins. Enfin, en tout cas, nous, on est prêts. On a de la matière pour illustrer.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Exactement. On va, histoire de se réveiller les esgourdes, diffuser une pièce dont M. Kosmicki parle dans son livre. Il s'agit de Polytop de Yanis Xenakis.
Allez!
On clique sur un bouton. We'll be right back. de retour à l'émission de littérature, même si nous allons parler de musique jusqu'à 20h avec Guillaume Cosmiki.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Vous nous entendez bien ?
Je vous entends bien.
Ah, bien. Alors voilà, on parle donc de musique savante ce soir. La première question en fait sera plutôt orientée autour de l'idée. Quelle a été l'idée pour écrire sur les musiques savantes ? Est-ce qu'il y avait un terreau qui vous prédestinait en fait à le faire ? Dès le plus jeune âge, vous en avez écouté ou c'est venu sur le tard ? Voilà.
Moi je me suis toujours intéressé à toutes les musiques, y compris aux moins aimées de toutes, on va dire en général. Que j'ai toujours trouvé très très intéressante. Je me suis jamais privé du plaisir intense que peuvent procurer les musiques, on va dire, les plus underground, ou les musiques censément les plus raffinées, celles qui vont creuser dans des recoins, de complexité, de structuration, de recherche sonore, d'expérimentation parfois extrêmement poussée, et qu'il faut parfois, pour les comprendre, un petit peu d'investissement, on dira, voire beaucoup. Donc j'ai toujours eu cet intérêt, toujours assez jeune, quand même. Et c'est vrai que j'avais... comme but quand j'ai écrit ces ouvrages, parce que c'est le deuxième tome là dont on parle, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu un premier tome il y a 2 ans, j'avais comme but de les présenter à des gens qui sont curieux, c'est vrai, mais pas forcément des gens qui en écoutent, de volontiers, de prime abord, comme ça. Et donc je me suis dit, essayons de leur simplifier un petit peu la tâche et de leur donner envie déjà, parce que c'est l'envie fait beaucoup, et peut-être un petit peu de piquer, éveiller un peu leur curiosité pour qu'ils s'y essayent et leur donner une sorte de guide facile à parcourir, je l'espère en tout cas, pour qu'ils puissent arpenter aussi ce monde que j'ai arpenté longuement à leur tour.
Et puis il est sûr que les deux tomes sont assez fédérateurs en fait aussi, car vous exposez, vous mettez en avant des albums connus vraiment du très grand public qui ont une interaction avec les musiques savantes. Enfin, dans ce tome-ci par exemple, le deuxième, on pourra quand même parler des Beatles, de Pink Floyd, du Love Supreme de Coltrane.
Voilà, en fait, j'ai dès le début, en fait, dans le premier volume, j'ai écrit une longue introduction qui précise un petit peu les bases de ma pensée. À savoir que le terme de musique savante est un terme qui est assez problématique de toute façon. C'est un terme qui va soulever des idées qui pour beaucoup peuvent être assez fausses, c'est-à-dire d'abord des musiques des élites, pour les élites, ensuite des musiques qui sont supérieures aux autres. Ça c'est toutes les mauvaises idées que j'adore.
Oui.
C'est pas du tout ce que je pense, c'est-à-dire que je pense que ce sont des musiques qui ont leur fonction. Moi je pense j'ai toujours eu cette volonté de parler de la fonction de la musique, et il y a des musiques qui ont des fonctions, d'autres fonctions, et tant qu'elles remplissent cette fonction, en tout cas elles sont utiles. Pour ça, je me suis intéressé très longtemps avant d'écrire sur ces musiques savantes. Pendant de nombreuses années de ma vie, moi, j'ai travaillé sur la techno, sur la house, sur le hardcore, enfin d'autres genres musicaux qui sont très 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 loin a priori de ces musiques-là.
A priori.
Et j'y trouve un intérêt tout aussi, important et tout aussi grand parce qu'ils remplissent leur fonction. Ils ont une autre fonction que ces musiques dont je parle là dans ces ouvrages. J'ai pris ces musiques savantes dans un sens large, ce que je viens de définir dans la précédente question, c'est-à-dire quelque chose qui des musiques qui ont une fonction de recherche, une fonction de prospection.
Est-ce que
et donc qui vont aller gratter dans des recoins, dans des espaces qu'on n'a pas encore explorés, voire même très très de manière très lointaine. Hein, ce sont des musiques qui vont de l'avant, qui souhaitent aller de l'avant, et qui reposent en même temps. Ça c'est toute la complexité de la chose et un peu le paradoxe. En même temps, qui reposent sur une longue tradition. C'est-à-dire qu'ils regardent de l'avant. Tout en héritant d'un passé et connaissant ce passé, connaissant cette histoire, étant, on va dire, héritière d'une tradition. Et effectivement, dans ce cadre-là, alors c'est aussi l'effet d'une période particulière, hein, on parle des années 60-70, où il y a eu des mondes qui se sont rapprochés de manière vraiment très, très, très prononcée.
Évidemment.
Dans les années 60-70, tout particulièrement, mais il y a eu d'autres exemples hein, plus tard, ou plus tôt même, eh bien, les musiques dites populaires ou dites de grande diffusion ont touché de très près aux musiques dites savantes. Il y a eu des moments où il y a eu des points de jonction, des points de, assez importants, assez intéressants. Certains ont raté, hein. Il y a eu aussi des gros ratages dans ce domaine-là. Je pense à Deep Purple, par exemple, enfin, qui a fait des très bons albums, mais qui a fait aussi des essais avec des orchestres classiques, avec des compositeurs.
C'était pas forcément
vraiment terrible. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, les albums de Sgt Pepper ou le Atom at Mother des Pink Floyd que je cite, ou certains essais de jazz, hein, sont allés dans cette voie-là. Et je pense qu'ils ont tout à fait leur place dans l'ensemble des œuvres que j'ai choisies dans les ouvrages.
Pour poursuivre et finir peut-être avec le terme musique savante, qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le terme de musique contemporaine ou d'avant-garde, par exemple ?
Bah, alors, musique contemporaine, tout de suite c'est gênant parce que c'est un terme qui a été utilisé dans les années 50 pour la musique dite contemporaine, effectivement. Sauf que quand on en parle aujourd'hui de ces musiques contemporaines des années 50, elles ont plus de 60 ans,
oui.
Et donc elles ne sont plus du tout contemporaines. Donc c'est un terme qui est un petit peu gênant, c'est un terme, enfin il y a le même genre de terme quand on a utilisé le terme Ars Nova,
oui.
au XIVe siècle. Au XIVe siècle on disait Art Nouveau, on le garde encore cette appellation pour le XIVe siècle, Ars Nova, mais c'est vraiment plus du tout de l'Ars Nova depuis le temps. Donc voilà, c'est plus trop plaisant, enfin c'est plus intéressant pour moi. Et le terme d'avant-garde pouvait être intéressant, c'est vrai, tout à fait valable, mais dans les musiques dont je parle, toutes ne sont pas foncièrement d'avant-garde.
Oui, évidemment, oui,
toutes
c'est vrai.
Ne sont pas, c'est-à-dire qu'il y a des exemples de musiques qui regardent peut-être un peu plus vers le passé que d'autres. Qui cherche à renouer avec une tradition plutôt que d'aller de l'avant. Et donc, dans ce cas-là, voilà, le terme s'applique difficilement.
Oui. Bah tiens, on pourrait rebondir sur ça et parler de Toru Takemitsu.
Par exemple, oui.
Qui est en fait un compositeur japonais qui a flirté avec la musique de film et qui, à un moment, a décidé de se retourner sur ses origines japonaises. Vous l'expliquez très bien dans le livre.
Bah, Toru Takemitsu, c'est vrai que c'est un compositeur extrêmement intéressant parce qu'il a un parcours très très varié, très riche, hein, surtout. Effectivement, comme vous le disiez, musique de film, tout à fait. Il a été intéressé très 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 jeune par cet aspect, propre au XXe siècle, hein, de la musique de cinéma, du lien avec le cinéma. Il a réalisé des musiques pour des très très grands films, mais c'est aussi quelqu'un qui est très jeune, dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de compositeurs qui ont vécu de près, hein, dans leur chair, hein, cette guerre. Il a été enrôlé, hein, dans des bases de surveillance du Japon alors qu'il était tout jeune adolescent. Donc il a été traumatisé, même s'il n'a pas vu les combats, même s'il n'a pas été de près, hein, dans les batailles. Quant à lui, il a été quand même largement touché par évidemment l'extrémisme ambiant, hein, qui régnait au Japon. Et c'est vrai qu'au sortir de la guerre, beaucoup de ces jeunes gens qui ont été touchés par les horreurs de ce conflit, ont voulu changer le monde en expérimentant des choses radicales, absolument radicales. Et donc il s'est intéressé tout de suite aux techniques électroacoustiques. Il a été fasciné par le théâtre musical, parce que Cage proposait, par l'insertion du hasard dans sa musique. Donc c'est quelqu'un qui a été particulièrement radical et expérimental dans ses œuvres, et qui rejetait dans un premier temps, pendant bien 15-20 ans, une quinzaine d'années, on dira, l'influence du Japon, l'influence de la tradition japonaise, de la musique japonaise. En fait, il voulait absolument faire une table rase. Et puis, l'œuvre que j'ai choisie, moi, dans le livre, c'est In an Autumn Garden, qu'il a composé en 73 et terminé en 79, parce que cette œuvre-là, justement, est tout à fait d'une autre facture. Il s'est rendu compte, au milieu des années 60, que la musique japonaise pouvait apporter beaucoup à son art. Je parle de musique traditionnelle, avec des instruments traditionnels, avec une gestuelle traditionnelle, une symbolique traditionnelle donnée aux instruments, qui est très éloignée de notre symbolique occidentale. Et il a inséré à plusieurs reprises ces instruments japonais traditionnels dans son instrumentarium. Parfois même, il les a mêlés avec de l'électroacoustique, mais parfois, il les a uniquement utilisés en tant que tels. Et c'est le cas de In Autumn Garden, hein, puisqu'on y entend un orchestre gagaku.
Oui, on va d'ailleurs l'entendre. Je vais monter un peu le son, là, il est en fond.
Absolument.
Ne soyez pas choqués, hein, on coupe toujours les morceaux à l'émission de littérature. Et là, du coup, je crois que l'extrait est plus qu'un extrait, ça dure 1h11. Donc voilà. Je voulais rebondir en fait sur ces occidentaux qui est lorgné sur les cultures de l'Est et inversement. On s'est intéressé dans l'émission de littérature une fois à la Musica Munda, musique du monde en fait, comme on l'entendait, vous parliez de l'Ars Nova tout à l'heure, à l'époque médiévale. On parle de gagaku, on lit dans votre livre que les compositeurs sont intéressés au gamelan, à la musique classique indienne et chinoise. Est-ce qu'il y avait cet esprit de musique du monde en fait, dans les musiques savantes à partir des années 50-60?
Alors c'est un des grands thèmes du second volume, hein, dont on parle là, de musique savante. C'est un volume qui commence en 63 et qui va jusqu'en 89, et c'est précisément donc un moment où effectivement ces musiques savantes, en fait, j'explique qu'elles se tournent plus que jamais vers l'extérieur. L'Occident cherche à se ressourcer au contact de d'autres traditions. Et donc commencer par cet exemple japonais est tout à fait caractéristique, parce que c'est vrai que le Japon fait partie de ces traditions qui vont être étudiées par de nombreux compositeurs. Certains ont commencé un petit peu plus tôt, je pense à John Cage par exemple, d'autres Américains hein, encore qui ont regardé déjà un petit peu avant. Je pense à Debussy aussi qui écoutait les gamelans de l'exposition universelle de 89, hein, 1889 à Paris, avec un grand intérêt. Mais c'est vrai que cette tendance tend à se, non pas se généraliser totalement, mais à s'intensifier, notamment avec la décolonisation hein, en général, qui fait regarder le reste du monde d'un tout autre œil. Hein. L'Occident n'est plus ethnocentrique au point où il l'a été. Évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples et aussi roses qu'on veut bien imaginer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus une tendance à... un intérêt réel hein, pour d'autres cultures. Et c'est vrai que par exemple les musiques minimalistes américaines, je pense aux musiques minimalistes répétitives tout particulièrement, par exemple celle de Terry Riley, celle de Steve Reich, de Philip Glass, eh bien sont très tournées vers notamment l'influence des percussions africaines, notamment pour Philip Glass, c'est un fait, mais aussi de la temporalité indienne, de la temporalité orientale en général, dont ils se sont nourris, tous ces compositeurs, et qu'ils réintègrent à leur manière dans leur propre geste compositionnel.
Vous parlez à un moment du terme de musique monde, de malheur. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait le sens en fait de cette appellation?
Ah, la musique monde de malheur, je ne sais pas à quel endroit j'en parle.
C'est au moment d'Olivier Griff, en fait.
Ah d'accord. En fait, Mahler, il est connu. Donc Mahler, il est né en 1860, il est mort en 1911. Donc c'est un compositeur qui fait la jonction entre le 19e et le 20e. Il est encore très romantique dans son âme. Et donc il met au sein de ses œuvres, selon l'idéologie romantique, hein, de musique expressive, d'une musique poétique, d'une musique capable d'exprimer autre chose qu'elle-même, de dire les choses, de raconter, d'évoquer des images, des sentiments, des poèmes, enfin tout un ensemble de choses extra-musicales, eh bien Mahler, en fait, dans ses œuvres, dans ses symphonies, il a intégré, exprimé le plus profond de lui-même déjà, ses névroses, ses phobies, ses aspirations, sa foi, ses doutes, ses espérances. Et puis il exprime aussi tout ce qu'il a entendu de son parcours, des musiques juives, des musiques de paysans, de campagne, des musiques de danse, des paysages aussi qu'il a arpentés, des sons naturels, et il fait des symphonies gigantesques, en fait, des réservoirs à toutes ces pensées, ces pulsions, des symphonies qui débordent radicalement le cadre de la symphonie, hein, tel qu'il a été tracé au XVIIIe siècle, hein, c'est très très loin de lui. Et ça en fait des symphonies qui expriment tout, qui embrassent tout. Et c'est pour ça que je parle, mais ce n'est pas une expression de moi, d'une symphonie monde.
Oui, oui, elle est attribuée à Mahler. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème.
Voilà.
Pour un peu clore ce chapitre, je voulais savoir si, à votre connaissance, en fait, il y avait actuellement des compositeurs indiens, chinois ou africains qui étaient dans la musique savante, on va dire, la musique d'avant-garde de maintenant ou contemporaine à 2015.
Il y a des compositeurs chinois depuis fort longtemps même. Il y a des compositeurs indiens, oui, il y en a. Alors les Chinois, on en a même beaucoup qui ont œuvré en Europe, hein, qu'on a connu de près. Hein. Je pense à Xu Yi, la compositrice là récemment, qui est toujours en activité. Vous disiez quoi comme autre nationalité ?
Indien, continent africain aussi, Afrique du
Alors,
Sud peut-être.
Le continent africain, c'est autre chose. Peut-être un peu moins dans le cadre des musiques, en tout cas dites savantes, dites parce que ces musiques à l'origine, en tout cas, hein, à l'origine. Repose sur une tradition qui est une tradition directement écrite, véritablement. Elles sont celles que je traite principalement. Hein. Après, il existe, et ça c'est très important de le signaler, des musiques savantes de tradition orale. Il en existe et il en a toujours existé aussi. Mais c'est vrai que la majeure partie de celles que je traite, outre celles qui sont spécifiquement électroacoustiques, et là dans ce cas-là il y a un petit peu quelque chose de différent, mais ce sont des musiques de tradition écrite. Et peut-être, probablement, que au niveau de l'Afrique, où il existe des traditions de musique savante, en tout cas, je ne prétends pas du tout tout connaître là-dessus, mais un geste
facile.
Évidemment musical propre à cette tradition de l'écrit n'est pas recherché en tout cas. Et donc, je sais que du temps de Senghor, hein, il y avait des tentatives, certaines à mêler les traditions africaines avec les traditions occidentales. Il y avait des liens entre des musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest et l'utilisation de violoncelles, d'instruments occidentaux. Il y a eu des essais de ce type-là, mais je ne suis pas sûr que ça ait produit beaucoup de choses et que ça ait perturbé, en tout cas.
Bien. On a parlé un petit peu de musique électronique, de musique sérielle. Je voulais appuyer le propos en diffusant 2-3 minutes d'un morceau que je trouve assez, peut-être pas fondateur, mais clé. Et vous en parlez très bien aussi dans le deuxième tome. C'est le Three Compositions for Piano de Milton Babbitt. Donc qui semble avoir été la première composition entièrement de musique sérielle, non ?
Disons que après coup, effectivement, on l'a considérée comme la première composition de musique sérielle parce qu'elle a été composée en 47.
Quand même. Oui.
En tout cas, un petit peu avant, je crois 2 ans avant, hein, les études de Messiaen de 1949, les études pour le piano, hein, dans laquelle il y a cette très fameuse étude, hein, qui a touché au plus profond le jeune Stockhausen. Le mode de timbre et d'intensité, hein, pour piano. Et c'est vrai que Babbitt n'était pas connu en Europe. Cette œuvre n'a pas circulé en Europe. Et c'est pas elle qui a fondé, en tout cas, le mouvement ultra-sériel. c'est après coup qu'elle a été découverte, je crois, par les jeunes compositeurs qui ont été les fers de lance de ce mouvement ultra-sériel.
Bien, eh ben, on en écoute un petit extrait donc, et puis ensuite on reprend la parole.
Très bien.
On revient dans l'émission de littérature.
Très bien.
En quoi ce morceau peut-il dire, bon allez, on va faire des gros raccourcis, qu'il est fondateur peut-être d'un... Voilà, est-ce que c'est la base de la musique électronique quelque part?
Je n'en suis pas sûr.
Ah.
Je n'en suis pas sûr parce que... en fait, ça dépend ce qu'on entend par musique électronique.
Le côté on sort du ton, on va chercher voilà, des répétitions de notes qui ne sont pas forcément harmonieuses comme ça, voilà, des timbres, voilà, on cherche l'expérimentation en fait. Et puis après, ouais. Bien évidemment, il y a la technique qui va bien sûr plus être précursive de la musique électronique, mais quelque part je trouve qu'il y a, un pétage de plomb là, à ce moment-là, en fait, au niveau de la composition.
Oui, alors... Là, pour le coup, effectivement, on est dans une grammaire, mais alors une grammaire extrêmement élaborée, hein, quand même. Hein, parce
oui,
qu'il faut dire, c'est
tout
pas,
est écrit.
Ce n'est pas le pétage de plomb généralisé.
Non, non, non.
Ou alors un pétage de plomb, mais alors très organisé. Je veux dire. C'est une grammaire qui est très, très, très complexe. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le sérialisme intégral, parce que tout est mis en série, tout est mis sous contrôle, hein, on va dire. Et les tons, il n'y a pas une tonalité effectivement, mais les tons sont en tout cas tout à fait contrôlés par cette grammaire. Et d'ailleurs, à jouer, c'est une complexité aberrante parce que ça ne correspond en rien à des grammaires, on va dire, plus quelque part
intuitives,
mais quelque part un petit peu naturelles
oui, voilà.
Qu'on a en nous. De revenir à une hauteur, de s'accrocher à un ton, de s'accrocher à quelque chose qui nous est voilà, ce qui nous est naturel. On est élevé au biberon de la tonalité tout petit, presque dans toutes les cultures d'ailleurs.
Oui.
Ça, c'est évidemment quelque chose qui est le fruit de la recherche, hein, qui ne peut pas être autre chose hein, que le fruit de la recherche. Et effectivement, pour le pianiste, le pauvre qui doit jouer ça, ou le chanceux, hein, selon les
acquaintances,
les positions, eh bien, c'est un travail monumental, hein, c'est un travail considérable. Et en tout cas, de toute façon, il n'y a pas du tout de technologie électronique là derrière.
Non, non.
Et ce qui me gêne peut-être à dire que ce serait la base de l'électronique, c'est que la base de l'électronique, c'est avant tout la recherche de, je pense, du timbre, de nouveaux timbres, de nouvelles sonorités. Or là, on se contente, même si on les exploite jusqu'au bout, hein, des sonorités du piano, qui est un instrument qui est déjà, on va dire, qui a un certain passé, qui est déjà vieux. Hein, de ces sonorités de piano, on développe des grammaires. Mais ça pourrait être joué, pourquoi pas, au clavecin. Ou ça pourrait être joué, pourquoi pas, à l'orgue. Mais en tout cas, c'est pas forcément le timbre qui fera l'essence de ce morceau. Je n'en suis pas persuadé.
Mais c'est une très bonne réponse.
Je pense, mais vraiment, que le timbre... devient fondamental et devient structurant.
Est-ce qu'il y a alors un morceau, vous...
À la base, enfin, fondamental, recherche de nouveaux sons basés sur l'utilisation d'électricité.
Est-ce qu'il y a un morceau, donc, pour vous, qui symbolise peut-être plus le début de la musique électronique? dont on parle dans le livre.
Dont on parle dans le livre. Alors là, question à brûle pour point, comme ça.
Ah oui, oui, je suis désolé.
Sur les débuts d'électronique, ce serait plutôt dans le premier volume que je piocherais. Et dans le premier volume, j'avais exposé en fait un certain nombre d'œuvres. Alors certaines sont analysées, d'autres sont juste évoquées. Il y aurait une œuvre qui se baserait sur l'enregistrement seul. Peut-être quelque chose qui serait pas mal, qui serait vraiment, préhistorique, hein, je dirais, peut-être. Je penserais à John Cage. Dans le premier livre, je l'évoque, hein, c'est les Imaginary Landscapes, et ce serait le numéro 1, tout simplement, qui date de 1939.
Oui, ça fait assez tôt, c'est bien, c'est très bien.
Voilà, surtout percussions et disques.
Oui.
Voilà, avec disques avec un son sinusoïdal électronique et un manipulateur de tactile.
Bien. On a parlé un petit peu d'école d'influence. Alors Webern a influencé l'école sérielle de la musique sérielle. Vous parlez beaucoup en fait dans le tome 2 des cours d'été de Darmstadt.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une colonie de vacances ?
Alors j'en parle surtout dans le premier volume, mais effectivement le deuxième volume en est l'héritage.
Oui, pardon.
C'est quelque chose qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas une colonie de vacances, mais quelque part, c'est une image qui est assez sympathique.
Oui.
Disons que l'Allemagne était exsangue, détruite, bombardée, surbombardée, rasée par les raids des Alliés. Et à Darmstadt, qui a été une ville magnifique, mais vraiment une ville fantastique, avec vraiment un passé historique des architectures Renaissance, vraiment qui était hérité, tout a été rasé, tout était complètement détruit. Et il restait un petit peu plus loin de la ville un château, restait intact. Et un musicologue et musicien qui s'appelle Wolfgang Steinecke, au sortir de la guerre, a proposé au maire de Darmstadt d'utiliser ce château l'été pour donner des cours, des conférences régulières chaque année avec tous les compositeurs d'Europe qui se réuniraient pour parler de l'avenir de la musique. Et au début, le maire l'a pris pour un fou. Parce qu'il avait d'autres problèmes à régler, il avait les orphelins, il y avait les sans-abri, c'était vraiment une période extrêmement grave. Et finalement, il a compris, et il a autorisé Steinecke à monter son projet, ce projet qui a été aidé, il faut le dire au passage aussi, par les armées américaines, qui ont vu là un moyen aussi de lutter contre les bolcheviques, l'influence russe, etc., qui ont donné des subventions, on va dire, pour acheter un grand piano, pour acheter tout ce qu'il fallait pour assurer ses cours. Et les premiers cours ont été donnés avec la fine fleur hein, de la composition, hein, l'avant-garde. On a fait revenir des Allemands, donc des Allemands qui avaient quitté le pays hein, pour fuir les nazis. Donc c'était intéressant de mettre ces Allemands pour diffuser finalement un autre message que le message nazi hein, qui était banni. Donc il y avait Hindemith, il y avait certains compositeurs comme ça qui étaient partis. Et puis on vénérait Schoenberg, on vénérait tous ces anciens-là qui étaient étudiés, travaillés. Et puis on y faisait venir les nouveaux, donc les nouveaux qui sont passés et qui ont trouvé beaucoup d'intérêt. Donc Stockhausen, Boulez, Nono, qui sont devenus un peu les chefs de file là-bas à Darmstadt. Et puis par la suite, tout le monde y est passé, mais vraiment tout le monde, hein, quasiment, à quelques exceptions près, hein, c'était the place to be, on va dire, et ça a duré encore, ça dure encore, mais c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins important aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 60-70, on y allait, alors Ligeti en rigole beaucoup, hein, il disait qu'on se fronçait les sourcils en écoutant des choses extrêmement complexes, et on se faisait plaisir à dire qu'on comprenait tout ça, qu'on partageait des choses, des graphiques, etc. Et c'est vrai que c'était un des hauts lieux de la recherche musicale, hein, savante hein, pour le coup. Mais c'est vrai aussi que ça prônait une certaine esthétique et une seule, qui était un peu dominante dans toute la vieille Europe et qui faisait frémir certains compositeurs, et notamment des compositeurs de la vieille Europe, justement, hein, qui n'y trouvaient pas du tout leur plaisir ou leurs intérêts, et puis surtout aussi des compositeurs américains qui y sont passés et qui ont eu un peu peur. Je pense à Cage, je pense même à Lamont Young qui y est passé et puis qui a bien compris que c'est pas là-bas qu'il trouverait lui des choses qui correspondraient à sa personnalité, quoi.
Oui, il était encore plus en marge peut-être. Mais bon, ça, on en parle aussi dans le livre. Je rebondis sur Lee Getty, qui est l'artiste cité deux fois dans le deuxième tome. Donc, est-ce que c'est le plus grand, à vos yeux ?
Eh oui, il est cité aussi une fois, je crois, dans le...
Dans le premier, ouais.
Ben, j'en suis pas certain, mais je crois bien.
Que j'ai regardé.
Ben, disons qu'il y a quelques compositeurs pour lesquels, effectivement, j'ai mis plus d'une œuvre. Oui, il y est dans le précédent tome pour Aventure. Effectivement, Lee Getty est un compositeur qui est tellement touche à tout et qui a tellement inventé que je ne pouvais faire l'économie, selon moi, hein, puisque c'est quand même un petit peu subjectif dans les choix des œuvres.
Évidemment.
Je ne pouvais faire l'économie de le citer un petit peu plus qu'une fois. Et j'ai mis effectivement, donc dans le précédent volume, j'avais mis Aventure, qui est une expérience de théâtre musical qui arrive presque avant tout le monde. C'est pas le premier, mais presque. Hein. Il est très, très, très avant-gardiste de ce point de vue-là. Dans le second volume, j'ai cité une œuvre où il utilise les surfaces de timbre qui ont été son grand cheval de course, on va dire, durant les années 60, 70. C'est les œuvres pour lesquelles il est le plus connu. Par exemple, le Requiem, par exemple, le deuxième quatuor à cordes, par exemple, enfin, Ramification, enfin, un grand nombre de pièces comme ça. Et puis, moi, j'ai cité Continuum pour clavecin seul, parce que c'est une pièce absolument fascinante. Et le clavecin produit un son qui, pour le coup, semble très électronique et trafiqué, on va dire, alors que absolument pas, c'est vraiment uniquement du clavecin et le jeu du claveciniste qui va donner les sons qu'on y entend.
On va peut-être s'en rendre compte, là, je vais monter le son un peu.
Oui, vous pouvez, ouais.
Pardon ?
Je pense pas que ce soit la pièce pour clavecin. Ça fait l'impression que c'est en fait une pièce pour piano.
Alors, c'est Antoinette Vichère au clavicembalo. À mon avis, ça est. Ça
D'accord.
est, mais le son est vraiment pas bon au téléphone. Voilà, on se rend bien compte de toute façon du niveau de technicité.
Bah oui, il est à la frontière même de la technicité du clavecin, c'est-à-dire
oui.
qu'on est même pas sûr, enfin on peut pas, même pas frapper plus rapidement les touches en fait. Hein. Et à ce niveau-là de rapidité d'exécution, eh bien là, il joue aussi avec les facultés humaines, cognitivement parlant. Hein, on n'arrive plus vraiment à distinguer totalement tous les sons et certains sons sont à la limite de se fusionner et de devenir en fait de passer du rythme à la hauteur.
Et là,
avec toutes ces illusions auditives, hein, tous ces jeux comme ça. Lee Getty, il faut savoir que quand il a quitté en 56 hein, la Hongrie, il s'est retrouvé tout de suite, il a foncé vers l'Allemagne et il a foncé vers les studios d'électronique parce qu'il entendait à la radio, au travers du rideau de fer, il entendait des essais de musique électronique, justement les premiers. Et il était fasciné, notamment hein, par une œuvre de Stockhausen, qui est le fabuleux et incontournable chant des adolescents, hein, Gesangsjunglinge, qui a touché beaucoup de monde hein, dans beaucoup d'univers esthétiques en 56. Et il a voulu apprendre auprès de Lee Getty l'utilisation de l'électronique à Cologne. Et très vite, au bout de deux années de dur labeur, vraiment de très dur labeur, parce qu'à l'époque, les synthétiseurs ne produisaient pas des sons assez riches pour qu'on puisse s'en contenter. Il fallait en fait enregistrer des... Généralement, c'était des sinusoïdes, hein, c'était vraiment pas grand-chose. Il fallait les enregistrer sur des bandes et puis recopier, enfin, faire jouer deux bandes en même temps et enregistrer le résultat de ces deux bandes superposées sur une troisième bande, recommencer avec cette troisième bande en superposant avec une autre bande, puis ainsi de suite, et encore, et encore, et encore, tout en filtrant pour enlever le souffle qui se rajoutait à chacun de ces rajouts de bandes. Et les sons complexes ne s'obtenaient qu'au bout de 10, 11, 12, 15 surajouts de bandes. C'est de la synthèse additive, on va dire, faite par bande, avec des sons électroniques à l'origine, mais qui étaient très pauvres en eux-mêmes. Et de là, on obtenait un son électronique qui durait, je ne sais pas moi, 2 secondes, 3 secondes. Et c'était fastidieux, c'était terrible. Puis pour donner une vivacité à ça, pour donner une intensité, une énergie, je veux dire, une matière plastique, c'était un travail monumental. Et donc en 49, il a complètement abandonné cette 59, pardon, il a complètement abandonné cette voie-là et il s'est orienté vers l'écriture instrumentale. Il est devenu un compositeur d'écriture instrumentale d'un raffinement incroyable, vraiment incroyable, pour réaliser par la micro-écriture, hein, les micro-structures, la micro-tonalité souvent aussi utilisée parfois, c'est pas le cas pour le clavecin, mais réussir à obtenir finalement des effets électroniques, hein, ou les effets électroniques qu'il pouvait imaginer en studio, finalement les obtenir par le jeu instrumental. Donc évidemment, c'est une virtuosité considérable.
Bien.
Plus d'écriture que de jeu, d'ailleurs.
Oui. À votre avis, alors bon, les cours d'été de Darmstadt, vous disiez que c'était moins suivi. Est-ce que pour vous, les plus grands compositeurs du moment, en fait, restent chez eux parce qu'ils dialoguent avec leurs camarades maintenant via Internet? Est-ce qu'il y a encore des écoles d'influence qui existent
Alors, il y a de ça. Ce qui se passe, en fait, tout particulièrement, bon, il y a un troisième volume, hein, qui est en cours d'écriture, vous imaginez bien, parce qu'on s'est arrêté en 89. Et donc, il va y avoir un troisième volume qui s'appellera très vraisemblablement John Zorn à la fin du monde et après.
Pas mal.
Voilà. Et en fait, il est prévu de longue date, il est toujours en cours. Hein. Il devait être en deux volumes, hein, le livre, mais finalement, il y avait tellement de choses à dire qu'on l'a coupé une fois de plus dans un endroit stratégique, on va dire. La fin du monde est passée et on continue. Hein, ça avance encore. Donc la fin du monde, c'est où on veut, hein, 2000, 2001, 2012, hein, comme on veut. Mais il se trouve que les écoles, dans l'état où j'ai laissé le second tome, sont déjà finies. C'est-à-dire que la dernière école en date, vraiment qui s'affirme, qui se revendique comme telle, et qui combat et qui lutte, c'est l'école spectrale. La musique spectrale, hein, autour de 75-76. Et elle existe encore aujourd'hui, il y en a encore qui s'en réclament, mais tous, même ceux qui s'en réclament, je pense... à Kaya Sarriao, par exemple, ou à Magnus Lindberg, par exemple aussi, à d'autres compositeurs comme ça qui s'y sont intéressés de près, eh bien tous, plus personne ne prend un étendard pour dire « j'ai la solution, c'est ça qu'il faudra trouver ». Après avoir passé presque un siècle de recherche tous azimuts, hein, vraiment où on a essayé plein de trucs et on a affirmé radicalement avoir trouvé telle ou telle voie, pourquoi est-ce que ce siècle a été si riche dans ce sens-là? Il y a plein de raisons à cela, hein, mais une raison principale, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un langage. Et donc, à la fin d'un langage, on cherche de tous les côtés. Et ça a été amplifié par le fait qu'il y a eu la révolution de l'enregistrement. On n'a jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui. Ça a été amplifié par la mondialisation, hein, par l'ouverture à l'autre, par beaucoup de choses comme ça. Donc, facteurs amplificateurs monumentaux. Hein. Ce siècle est un siècle de diversité stylistique sans précédent. Eh bien, il se trouve que finalement, donc, face à ce constat d'échec, hein, ou de semi-échec, entre guillemets, les compositeurs aujourd'hui ne veulent plus se trouver seuls, comme ça, à chercher, je veux dire, sans reconnaissance, sans laurier, sans... voilà, et les compositeurs sont beaucoup plus, c'est pas le cas de tous, absolument tous, mais quand même, dans la recherche d'un consensus. La recherche de quelque chose qui peut plaire, qui peut toucher, qui peut attirer. Et ce consensus fait qu'on ne revendique plus comme ça radicalement une école, parce qu'une école, c'est se mettre à dos, hein, les autres, c'est dire j'ai raison, je trouve une solution, c'est ça qu'il faut suivre, faire un manifeste, hein, faire quelque chose de tonitruant, ça a été le cas vraiment encore avec l'école spectrale, hein, je le disais à l'instant. Et il est vrai que Internet favorise non seulement l'ouverture, l'englobement, je dirais, de nombreuses esthétiques, de nombreuses musiques, nombreuses influences, mais aussi le fait qu'on va travailler beaucoup plus en dehors des laboratoires, en dehors des écoles physiques, celles-là, hein, des lieux importants, je pense à l'IRCAM, je pense à des lieux de ce genre-là, et que on va papillonner comme ça via le web beaucoup plus à la recherche d'un style plus mixte. C'est tout à fait le cas aujourd'hui, hein, en général.
Bien, voilà qui me rassure, parce qu'à la lecture du deuxième tome, quand même, j'avais l'impression, entre les liens historiques et les albums mis en avant, que le thème de la mort, au final, obsède beaucoup les compositeurs. C'est un truc qui m'a marqué. Alors, ça a peut-être toujours été comme ça dans les musiques savantes, mais est-ce que vous trouvez justement que cette ouverture vers autre chose, vers autrui peut-être, va un peu les calmer à ce niveau-là?
Je ne suis pas certain pas que ce soit une nouveauté de la musique.
Non.
Savante. Parce que la musique, de toute façon, est un art du temps. De toute façon. Et la musique, de toute façon, c'est toujours un art du temps, un art de la maîtrise du temps. Et maîtriser le temps, c'est résister à la mort. Donc le thème de la mort, à mon sens, est intimement lié à celui de la musique. Vraiment. Je pense même que c'est pas moi qui l'invente non plus, mais il y a des théories, voire même des en littérature. Alejo Carpentier, par exemple, dans Le Partage des Eaux, dans une des pages du Partage des Eaux, puisque c'est une émission littéraire, donc allons-y, je me permets. Allez. Dans une des pages du Partage des Eaux, il y a un sorcier qui va, face à un guerrier en Amazonie, hein, qui a été piqué par un serpent, se mettre à chanter. Avec deux voix qui se répondent, une voix gutturale, une voix terrestre, et puis une voix beaucoup plus aérienne. Il s'adresse à son âme, il s'adresse à son corps, et puis son corps, à lui, au sorcier, se prolonge par des sonailles, et il se met à bouger des grelots, et il se met à animer comme ça une musique. Et il y a une très belle description sur une page entière, hein, de dans le Partage des Eaux. Et à la fin, l'auteur, Alejo Carpentier, va dire « Je venais d'assister à la naissance de la musique ». Et c'était assez magnifique, ça donne des frissons, même quand on lit cette page, hein, en tout cas, ça m'en donne. Et c'est assez phénoménal parce que, effectivement, il y a ce rapport à la mort, hein, et l'âme du guerrier, enfin, de l'Indien qui a été piqué comme ça par le serpent est partie. La musique a résisté face à cela, elle a perdu, mais en tout cas, elle a fait quelque chose d'un peu magique face à cela. Et donc, je pense que l'obsession de la mort dans la musique, c'est pas du tout nouveau. Et je pense pas que ce soit forcément lié aux musiques savantes, hein, loin de là. C'est le cas d'ailleurs dans cette description de Alejo Carpentier. C'est pas des musiques savantes dont il s'agit, musique rituelle, hein, musique de culte. La mort, c'est vrai que au XXe siècle, elle a été très 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 présente, hein, de par les énormes conflits, les cicatrices monumentales, hein, qui ont été proférées comme ça dans l'humanité même, hein, ces bombes atomiques, etc. Enfin, toutes ces choses qu'on n'avait jamais imaginées. Donc, je pense que c'est d'autant plus normal qu'on en parle en musique, hein, comme on en parle en littérature ou ailleurs. Hein.
Et donc, dans le futur, ça sera, ouais, juste pour finir avec cette question.
Dans le futur, ce sera, pardon,
ça sera, non, ça sera toujours un peu, vous pensez, le leitmotiv.
Je pense que ça disparaîtra pas si tôt. Hein. Je pense que ça disparaîtra pas si tôt.
Voilà qui est rassurant.
Je commence juste avec un album de Naked City.
Oui, d'accord.
Alors, je me suis appelé un photographe qui photographiait des faits divers dans les villes américaines. Là, j'ai plus en tête, mais c'est sur cet album de Naked City, il y a un cadavre, hein, avec un vin tout frais, avec le sang qui coule sur le trottoir, quoi. Et on est en 89, en fait, hein, et on est dans un album, bon, ben, passable. Certains disent de jazz, d'autres disent de mash-up, de variété, de mélange.
Bien speed.
Voilà, il y aura toujours le temps, hein.
Je propose d'écouter 30 secondes peut-être de la sonate de Requiem d'Olivier Greff.
Avec plaisir.
Allez. C'est court, 30 secondes. On est
ça,
dans
c'est
une...
merveilleux. Hein.
Oui, on est bien d'accord.
Ça, c'est un compositeur qui aurait tendance à regarder vers le passé.
Oui, ça, vous en parlez très bien d'ailleurs dans le livre. Enfin, moi, il y avait des choses que je ne connaissais pas de lui. C'était enfin, le passage mystique, notamment, est fort intéressant. Je voulais vous parler d'une émission de littérature. Je voulais rebondir sur la poésie sonore qu'on retrouve peu, au final, dans ce tome. Est-ce que c'est un choix volontaire.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu figurer peut-être un peu plus. Peut-être qu'elle a eu, elle est toujours présente, toujours actuelle.
Oui, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas, au final, une actualité plus riche maintenant, enfin depuis 89, qu'avant, au final?
En fait, il y avait des grandes figures. Avant ça, j'avais cité les futuristes avec Marinetti qui déjà utilisaient des onomatopées, qui disaient des bruits de canon avant 1913, hein, dans ses poésies. J'avais déjà un peu cité dans le premier volume. Après, c'est vrai que j'aurais pu penser à Henri Chopin. Dans des noms de plutôt les parmi les précurseurs, les anciens. Je pense, en fait, dans le prochain volume, il y aura la présence. Alors, j'aurais aimé qu'il soit là aussi, mais je ne pouvais pas le mettre non plus. Il était déjà en action, on va dire, dans la période qui est évoquée dans le volume, hein, de 63 à 89. C'est Georges Aperghis, qui a écrit énormément de pièces vocales, dans lesquelles il écrit aussi les textes, les paroles. C'est pas classifié directement dans la poésie sonore. On parle toujours de théâtre instrumental, de théâtre musical, beaucoup pour Georges Aperghis, mais c'est vrai que dans ses pièces vocales, hein, il y a un aspect poésie sonore extrêmement évident. Et il sera présent, hein, dans le volume suivant, ça c'est une évidence, il est incontournable pour moi. Donc à qui je pourrais penser comme ça, brûle pour point.
Xavier Charles, peut-être. Xavier Charles, non, je sais pas.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas cité non plus, mais.
Il y a Bernard Haitzik aussi, mais qui est peut-être.
Cité, moi, qui se rapprocherait de ça.
Bernard Haitzik, mais qui est plus ancien, peut-être.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Puis moi, oui, mais dans les nouveaux, il y en a pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi, écoutez, peut-être plus en marge. Enfin.
Qui est pas fermé du tout. Hein,
non, non, j'imagine.
C'est vrai que j'ai pas exploité totalement. Alors, j'ai cité quand même. C'est pas de la poésie sonore, mais c'est quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. J'ai cité Tripsodie de Cathy Berberian.
Oui.
Qui est quand même extrêmement vocale, basée sur la vocalité, basée sur l'onomatopée, basée sur. Et puis une sorte de poésie vocale brutiste, quoi, quelque part. Hein, quelque chose qui est assez.
On peut en écouter un court extrait, histoire de se faire une idée. Allez. Bon, je rigole, j'ai l'image en même temps. Et
Elle est fantastique, l'image. Hein,
le clip, hein, sur YouTube est goulayant, on va dire. Allez. Non, c'est très bien. Ouais. Moi, je connaissais pas en plus. J'avais entendu ce qu'elle avait fait des Beatles, tout ça, et ça m'a bien fait rigoler. Ce truc. Je voulais parler de field recording, ces enregistrements en fait de terrain, dont Luc Ferrari serait peut-être un peu l'initiateur. Vous en parlez dans le tome.
Bah, disons que si c'est on peut toujours trouver, hein, quelque chose qui s'est fait avant. Il y a toujours des voilà, quand on regarde l'ouvrage, hein, le field recording chez le même éditeur, il y a évidemment d'autres exemples, hein, qui sont même des exemples d'ethnomusicologie qui sont cités au début du siècle, dès le début. Mais c'est vrai qu'il a été un grand partie prenante vraiment de la naissance, hein, de quelque chose quand même, Luc Ferrari, et notamment aussi de la naissance de l'art radiophonique. Le
Nagra.
Hörspiel, hein, en Allemagne, bon, qui était déjà fameux, peut-être un peu avant lui, mais il a été très très présent. Je pensais à l'ouvrage d'Alexandre Galland, je cherchais son nom, hein, sur le field recording. Il y a des disques qui sont cités qui datent de bien avant Luc Ferrari, qui datent des années 10, des années 20, dans son choix de 100 disques. Hein, selon lui, c'est quelque chose qui existe presque depuis le début d'enregistrement, quasiment.
Oui.
L'art, le considérer comme un art, le considérer comme une esthétique. C'est vrai que Luc Ferrari a été vraiment un maillon extrêmement important de cette considération. D'intégrer son quotidien, d'intégrer ses voyages, d'intégrer ses promenades, d'intégrer ses dérives dans la nuit, ses explorations personnelles, et de les mixer, de les fusionner comme ça dans des œuvres extrêmement personnelles, du coup, hein, très 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 intimes. D'ailleurs, qui lui posait des problèmes, hein, dans les presque rien pour les produire. Il avait de plus en plus de mal au fur et à mesure de leur création, parce qu'il trouvait ça trop personnel, trop proche de lui, et il avait beaucoup d'hésitation à les publier. Eh bien, ça vient vraiment de lui, hein, ce genre de travail artistique.
On va écouter un court extrait du Presque Rien 4, justement, qui est sorti, je ne sais pas, de son vivant ou...
Le 4, oui, il est sorti.
D'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'il mettait du temps des fois.
«
Bon, c'est dommage, là on n'entend pas des bribes de voix, mais on, voilà, il y avait beaucoup de voix de sa femme, Brunhilde, enfin c'est troublant.
Absolument, oui, oui, il monte dans un village, on entend les scooters, on entend les moteurs, les voitures, etc. Puis il fait des commentaires, hein, souvent. Parfois c'est des commentaires très poétiques, parfois c'est tout simple, parfois c'est rien, c'est quelques mots comme ça.
Oui. On en approche de la fin de l'émission, donc il va falloir terminer avec une question peut-être un petit peu, je sais pas, rigolote, allez. J'ai remarqué, en fait, on en parlait au début de l'interview, vous citiez des albums, on en a parlé, hein, un peu grand public, connu du grand public en tout cas, les Pink Floyd, les Zappa, les Beatles. Mais il n'y en a plus à partir de 1974, bizarrement, en fait, dans la deuxième partie du livre, en fait. Voilà, alors est-ce que vous n'en avez pas sélectionné parce qu'il n'y en avait pas, ou est-ce que vous ne voulez pas mettre un seul album de Kraftwerk, peut-être?
Kraftwerk, je pense que vous savez que j'ai beaucoup d'intérêt pour Kraftwerk parce que j'ai écrit aussi un ouvrage sur les musiques électroniques.
Oui.
Et donc évidemment, ils sont absolument incontournables. Je trouve leur intérêt considérable, bien sûr, dans l'histoire de la musique, mais je dirais qu'ils sont moins dans cette veine savante, à mon sens. Il y a un aspect immédiatement pop, dansant, facile, évident, hein, chez eux, hein, qui se veut comme tel, en tout cas.
Oui.
Il n'y a pas de composition véritablement expérimentale, de recherche. Il y a de la recherche sonore, c'est sûr, il y a de la recherche technologique, il y a de la recherche...
Voilà, un mélange de concepts aussi, d'écriture peut-être un peu différente, quoi, pour l'époque, mais
oui,
pas suffisamment,
oui, peut-être. Alors peut-être, dans ce cas-là, c'est peut-être pas l'écriture minimaliste répétitive de Reich me semble peut-être plus... à citer
oui,
dans le travail d'un système. J'ai cité toujours je m'aide à écouter aussi quand je cite des albums, des disques, des œuvres plutôt. Je cite beaucoup plus des œuvres que des disques, hein, généralement. J'ai cité quand même dans la liste de Kraftwerk, j'ai cité un certain nombre j'ai cité un certain nombre d'albums à écouter, puis dedans j'avais mis Michael Jackson, des énormes albums comme ça qui sont...
Thriller en plus, hein, on y va quoi.
Pardon ?
Thriller en plus, hein, on y va quoi.
Voilà, voilà. absolument. Avec un son... incontournable, un son avec un travail esthétique. J'aurais pu citer du Prince aussi, hein. C'est vrai,
oui.
Que voilà, on est tout à fait. Et puis dans le prochain volume, il y aura forcément un album de Björk. Il y aura Aphex Twin aussi, probablement,
oui.
Très probablement. Peut-être Amon Tobin. Enfin, vous voyez des noms de ce type comme ça. Il n'y a pas Kraftwerk.
Non, c'est surtout qu'en fait, entre 1974 et 1989, il n'y avait rien, mais effectivement, il y a Thriller, il y a ce que vous citez là.
J'ai pas pu faire d'arrêt sur l'œuvre en elle-même, j'ai cité un Public Enemy aussi.
Oui, 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 bah, c'est redoutable en collage de bandes, justement, ils sont allés très loin. Quoi.
Ouais, ouais.
Bien, eh bien, merci beaucoup, Guillaume Kosmicki. Peut-être pour le troisième volume ou pour autre chose.
Avec plaisir.
Paris pour nous. Merci et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve le mois prochain, cher Karl, avec une interview d'une heure avec Jean-Noël Orango pour parler de son livre, son premier roman, La fleur du capital, roman très épais chez Grasset, qui est le roman de cette rentrée littéraire, celui dont j'espère tout le monde.